Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la contestation des résultats de la présidentielle du 22 juin en Mauritanie. C'est aujourd'hui, théoriquement, dans 2 heures que le Conseil constitutionnel doit annoncer en direct à la télévision nationale les résultats définitifs. Alors, quelle sera la décision des juges? Vont-ils confirmer les résultats de la commission électorale qui donne Mohamed Oulrazouani, le dauphin du président sortant, vainqueur avec 52% des voix, ou les juges vont-ils répondre favorablement au recours déposé par l'opposition qui dénonce un hold-up électoral et réclame un nouveau scrutin? En tout cas, sans attendre les résultats définitifs, plusieurs pays ont déjà félicité le candidat du pouvoir. C'est le cas notamment de la France, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite et du Mali. Vos réactions sur la crise post-électorale en Mauritanie et vos témoignages, vous qui êtes sur place, 33 9 693 693 70. D'ici là, comme tous les matins, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI. Vous nous posez vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et nous allons commencer avec des questions sur le Soudan. Bonjour Didas.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Brazzaville, au Congo. Soyez le bienvenu. Nous vous écoutons.
Ok, merci. Les chefs militaires de transition au Soudan ont été accusés par la CPI d'avoir commis des actes au Darfour, ce qui inquiète les populations de cette partie du pays. Alors, à ce propos, j'ai 2 questions. Quel type de crimes ont-ils commis au Darfour? Et pourquoi ces chefs militaires ne sont-ils pas poursuivis par la CPI comme l'ancien président Omar El-Béchir?
Oui, c'est vrai que les chefs du Conseil militaire de transition qui dirigent le pays depuis la destitution d'Omar El-Béchir sont en effet accusés d'avoir commis des exactions dans cette région de l'ouest du Soudan au début des années 2000. On va retrouver à Khartoum, dans la capitale, l'envoyé spécial de RFI. Bonjour Alexandra Branjon.
Oui, bonjour.
Les deux généraux à la tête de la transition militaire sont accusés d'avoir participé à la guerre au Darfour. Quels actes ont-ils commis exactement?
Alors, pour rappel, déjà, peut-être revenons sur l'ex-président Omar El-Béchir, qui fait en effet l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009-2010 pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre commis dans le cadre des violences au Darfour. C'est une région qui est le théâtre d'une guerre civile depuis 2003 et qui oppose le pouvoir central à des rebelles issus de minorités ethniques. Parmi les chefs d'accusation retenus contre lui figurent des crimes tels que meurtre, viol et torture et pillage de village. Alors cette campagne sur le terrain a été menée par l'armée et des groupes paramilitaires qui leur associent. Donc par exemple, le numéro 1 du conseil militaire dont vous parliez, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a été impliqué dans ce conflit. Il travaillait dans les renseignements pour coordonner les attaques contre les civils au Darfour entre 2003 et 2005. L'autre personnage qu'on associe à cette guerre, c'est évidemment le général Hamdan Daglo, surnommé Eiti, qui est aujourd'hui le numéro 2 de la junte, qui fait partie de ce conseil militaire de transition et qui a été le commandant d'une des plus puissantes milices pro-gouvernementales au Darfour, les Janjaweed, ces milices qui sont accusées d'exactions au Darfour.
Donc ça fait 10 ans, vous le disiez Alexandra, que la CPI poursuit l'ex-président Omar El-Béchir pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Expliquez-nous pourquoi ces deux généraux qui sont aujourd'hui à la tête du Conseil militaire de transition ne sont pas inquiétés, tout du moins pour l'instant, par la justice internationale.
Écoutez, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Peut-être qu'ils sont moins connus, sauf peut-être le général Emiti, là, qui est devenu une figure un petit peu plus connue dans les dernières années, contre lequel je crois savoir d'ailleurs qu'il y a des enquêtes effectuées par des organisations locales ici au Soudan. Ensuite, est-ce qu'il a pu bénéficier d'une certaine protection? Ces unités paramilitaires ont été utilisées jusqu'à récemment et peut-être encore comme brigade en frontière avec la Libye pour bloquer le flux des migrants qui viennent de l'Est et qui rentrent en Libye. Je vous rappelle qu'il y a tout juste quelques jours, certains médias d'ailleurs accusaient l'UE d'avoir un contrat avec Emiti pour bloquer cette émigration. Est-ce que ça en fait partie? Il a été aussi le promoteur de l'engagement soudanais au sein de la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. Est-ce que ça joue également dans une éventuelle protection qu'il pourrait avoir contre l'autre général, le numéro 1 de la junte, le général Al-Burhan. C'était pour l'instant, il a été jusqu'à présent assez inconnu. Il est sorti le dernier mois depuis la chute d'Omar al-Béchir.
Bien. Dossier à suivre donc, Didas. Voilà pour les explications de l'envoyé spécial de RFI au Soudan, à Khartoum. On remercie évidemment Alexandra Brangeon. Et Didas, je vous souhaite un bon début de semaine à Brazzaville, au Congo. 10h16 à Paris. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission, c'est de vous entendre sur l'antenne de Radio France Internationale. Serge, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous êtes à Kisangani, en République démocratique du Congo. Et vous avez des questions, Serge, sur le Sea-Watch, ce navire dédié au sauvetage des migrants en Méditerranée.
Effectivement, Anne. Le Sea-Watch 3, un navire humanitaire hollandais affrété par une ONG allemande, a forcé l'accès au territoire italien après 14 jours d'errance, afin de débarquer les 53 migrants à son bord. Pourquoi la capitaine de Sea-Watch 3 a-t-elle bravé l'interdiction des autorités italiennes?
Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que dans la nuit de vendredi à samedi, Carola Rackete, la capitaine de ce navire, a décidé d'accoster de force sur l'île de Lampedusa. Elle a immédiatement été arrêtée pour aide à l'immigration clandestine. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour.
Correspondante de RFI en Italie, expliquez-nous pourquoi la capitaine Carola Rackete a-t-elle bravé l'interdiction des autorités italiennes?
Alors pour le comprendre, eh bien, il faut revenir un peu en arrière. Le Sea-Watch stationnait depuis le 26 juin devant le port de Lampedusa après avoir pénétré sans autorisation les eaux territoriales italiennes. En l'espace de 24 heures, 13 migrants ont été transférés par les gardes-côtes sur l'île pour raisons de santé, ce qui a rendu le climat encore plus tendu pour les 40 autres migrants contraints de rester à bord du navire. Et dans une conférence vidéo en direct avec la presse étrangère à Rome, le matin du 28 juin, la capitaine nous a raconté que les migrants étaient à bout et qu'elle craignait des actes suicidaires. Elle espérait toutefois qu'après l'accord de répartition entre 5 pays européens annoncé la veille, Matteo Salvini allait enfin autoriser le débarquement, mais le ministre de l'Intérieur a voulu poursuivre son bras de fer avec la capitaine qui a osé défier sa politique des ports fermés.
Oui, elle a osé, le bras de fer qui se durcissait, d'autant que vendredi soir, tout s'est accéléré, Anne Lenir. Carola Rackete, donc cette capitaine du navire Sea-Watch, a été informée qu'elle était mise en examen.
Oui, et elle devait être interrogée samedi à Lampedusa, ce qui l'aurait obligée à abandonner le navire. Alors, la capitaine a invoqué l'état de nécessité et fait entrer de force le navire dans le port de Lampedusa vers 2h du matin le 29 juin. Mais elle a commis une erreur de manœuvre. Le navire de 650 tonnes a heurté la vedette des douanes qui s'était positionnée pour l'empêcher d'accoster au quai et a bien failli écraser les 5 militaires à bord. Immédiatement après le débarquement des 40 migrants, Carola Rackete a été interpellée et placée aux arrêts domiciliaires à Lampedusa. Elle sera interrogée cet après-midi par un juge du parquet d'Agrigente en charge de l'enquête.
Alors justement, Serge, vous avez des questions sur l'avenir judiciaire de la capitaine du Sea-Watch.
Cependant, quel risque la capitaine? Comment peut-on considérer qu'une capitaine qui sauve des vies humaines?
Ah, que risque-t-elle, Anne Lenir?
Alors c'est un peu compliqué, vous savez, Matteo Salvini va jusqu'à la qualifier de hors-la-loi criminelle, mais bon, c'est l'opinion d'un homme politique en guerre contre les ONG de secours en mer. Pour l'heure, en vertu du nouveau décret de sécurité, le navire a été placé sous séquestre et la capitaine, l'armateur et le propriétaire du Sea-Watch risquent une sanction pécuniaire de 50 000 euros. Concernant les faits dont devra répondre Carola Rackete, eh bien, elle est accusée de violence et de résistance contre un bateau militaire. Ce délit est passible d'une peine de 3 à 10 ans de prison.
Et elle est passible également d'une peine de 15 ans de prison maximum, puisqu'elle était accusée également d'aide à l'immigration illégale.
Effectivement, mais à ce stade, vous savez, on ne peut pas encore savoir quelles seront les décisions de la justice. Hier, le procureur d'Agrigent a fait une déclaration très dure. Il estime que les raisons humanitaires ne peuvent pas justifier des actes inadmissibles de violence envers ceux qui portent l'uniforme en mer. Cela dit, ce matin, les médias italiens n'écartent pas l'hypothèse d'une expulsion de la capitale vers l'Allemagne, son pays natal. Une affaire complexe, donc, qui suscite des réactions très virulentes de la part de plusieurs pays européens. En France, par exemple, le ministre de l'Intérieur juge la politique de fermeture des ports contraire au droit maritime international. Et puis l'Allemagne, très remontée contre Salvini, a déclaré par la voix de son président que ceux qui sauvent des vies ne peuvent pas être des criminels.
Oui, Serge, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup.
Merci de votre fidélité à Kisangani en République démocratique du Congo et on remercie évidemment Anne Nier, correspondante de RFI en Italie. Des questions maintenant sur le Venezuela. Bonjour Lamine.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Banjul, dans la capitale gambienne, et vous avez des questions sur ce coup d'État militaire raté, coup d'État qui aurait dû avoir lieu il y a tout juste une semaine, dimanche et lundi dernier.
Effectivement, Anne, le gouvernement vénézuélien affirme avoir déjoué un coup d'État militaire. Alors, quelles sont les preuves concrètes dont dispose Nicolas Maduro? Nicolas Maduro accuse les États-Unis, le Chili et la Colombie d'avoir collaboré à l'organisation de ce coup d'État. Ont-ils réagi à ces accusations?
Alors, c'est vrai que selon le gouvernement, ce coup d'État militaire aurait impliqué l'opposition en lien avec les États-Unis, la Colombie, le Chili. Bonjour Serge Olivier.
Bonjour.
Historien, spécialiste du Venezuela et chercheur au sein du comité d'histoire sociale du XXe siècle de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. D'après le gouvernement vénézuélien, les putschistes comptaient assassiner Nicolas Maduro et le remplacer par un général qui est actuellement en prison. De quelles preuves dispose Nicolas Maduro pour formuler de telles accusations?
Bien, pour l'instant, aucune, semble-t-il, car effectivement, les militaires qui auraient été impliqués dans ce coup d'État qui, pour l'instant, n'a été présenté que par le gouvernement et notamment par le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, pour l'instant, donc, ne communiquent pas. Il n'y a eu que ce capitaine qui a été, en fait, tué alors qu'il était en prisonnier sous la torture, qui s'appelle donc Rafael Acosta, et Rafael Acosta Arevalo, donc, a été présenté samedi au tribunal militaire dans un état catastrophique, sous la torture, et a été hospitalisé et décédé ensuite. Et ce n'est qu'ensuite donc que le gouvernement a déclaré qu'il était impliqué dans une tentative de coup d'État le 23 juin dernier. Donc, il est difficile de savoir si véritablement il y a eu un coup d'État. En tout cas, il s'agit pour le gouvernement de se justifier de la mort d'un prisonnier politique, qui est un militaire, un capitaine de corvette des forces navales vénézuéliennes.
En tout cas, Juan Guaido, le chef de file de l'opposition, lui, rejette évidemment toutes ces accusations. Que faut-il penser du président Maduro lorsqu'il accuse les États-Unis, le Chili, la Colombie d'avoir fomenté ce coup d'État?
Alors, il y a deux choses par rapport à cette question. La première, c'est que l'accusation de coup d'État organisée depuis l'extérieur, notamment depuis les États-Unis au Venezuela, c'est un fonds de commerce de la part du chavisme, un fonds de commerce et en même temps une réalité. Puisque en 2002, il y a eu une tentative de coup d'État de l'opposition vénézuélienne de l'époque, qui était insurrectionnelle, contre le président Chavez, et qui a échoué, qui a été reconnue, ce tentative de coup d'État, par les États-Unis. Cela étant dit, c'était l'opposition qui l'avait organisée, et non pas les États-Unis. De même, le 30 avril dernier, il y a eu véritablement une tentative de coup d'État, mais extrêmement peu organisée. Elle a été notamment organisée par le chef des services secrets de renseignement vénézuélien qui s'est contenté en fait de faire sortir Leopoldo López de sa mise sous résidence surveillée puis de partir tout de suite à l'étranger. Donc c'était vraiment un coup d'État très mal organisé, très peu coordonné, avec très peu de volonté. Et le capitaine qui a été assassiné récemment, qui a été tué, qui est mort récemment, donc l'affaire Acosta Arevalo, il était lui-même déjà à la retraite. Donc vraiment en fait l'organisation de coup d'État à l'heure actuelle si elle existe, elle est très mal organisée, comme toutes les forces armées vénézuéliennes qui, à l'heure actuelle, souffrent énormément de la crise et sont très désorganisées. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, le Chili, la Colombie sont alliés avec les États-Unis contre Maduro et ils soutiennent donc Juan Guaido. Pour autant, le Colombie et le Chili affirment très clairement qu'ils refusent toute intervention militaire étrangère au sein du Venezuela, puisqu'ils ne veulent pas d'un conflit armé entre États en Amérique du Sud. Et pour cela, de ce point de vue, ils se sont opposés à Washington, ils se sont opposés à Trump, ils se sont opposés à ses conseillers, notamment John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale.
Oui, donc oui, oui à un soutien de Juan Guaido, le chef de file de l'opposition, mais pas question de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela. Merci beaucoup Serge Olivier d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Lamine qui nous appelait de la capitale gambienne. Il nous reste 4 minutes, dernière question de la matinée avec Ibrahim, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Benoît, votre technicien du jour.
Ah, effectivement, Benoît qui est à la console avec Arès ce matin. Vous avez, Ibrahim, des questions sur l'action engagée par plusieurs ONG contre la compagnie pétrolière Total.
Tout à fait Juan. Le géant pétrolier français Total est mis en demeure par 6 ONG dans le cadre d'exploitation pétrolière en Ouganda. Comment expliquer que Total a eu l'autorisation de fleurer dans une aire naturelle protégée? Quelles mesures Total pourrait-elle mettre en place pour respecter cette loi?
La compagnie pétrolière Total, mise en demeure effectivement pour ses activités en Ouganda, dans un parc naturel pour être précis, au bord du lac Albert. Bonjour Laurence Yarabelli.
Bonjour.
Porte-parole de l'association Survie, l'une des 6 ONG, 2 françaises et 4 ougandaises, qui accusent Total de ne pas respecter une loi française adoptée en 2017. D'abord, en deux mots, Laurence Yarabelli, présentez-nous ce projet pétrolier qui fait polémique, le projet Tilenga.
Alors, le projet Tilenga, c'est un projet d'extraction pétrolière qui se trouve dans un parc naturel qui est le parc des Murchison Falls, près du lac Albert, en Ouganda. Qui est un projet qui va concerner la mise en place de 419 puits de pétrole et une production d'environ 200 000 barils pétroliers par jour, ce qui est l'équivalent, on va dire, de la production quotidienne du Gabon. Le projet de Tilenga, il est accompagné d'un autre projet beaucoup plus important, qui est un pipeline qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie, qui va rejoindre à peu près 1500 km de pipeline. Hein, ce sera un pipeline chauffé qui va acheminer le pétrole visqueux jusque dans les tankers.
Oui, c'est le plus long pipeline de pétrole brut chauffé au monde. Que dénoncez-vous exactement vous reprochez à Total de ne pas respecter une loi française, mais encore.
Alors tout à fait, nous avons donc mis en demeure Total hein, sur la base de la loi devoir de vigilance qui est un outil contraignant qui permet entre autres à la société civile de demander avec une base contraignante à une entreprise qu'elle établit sur vente publique et mettre en œuvre un plan de vigilance. Aujourd'hui, nous on a analysé avec les Amis de la Terre et nos partenaires ougandais le plan de vigilance de Total et nous trouvons que ce plan de vigilance est insuffisant. En l'espèce, la loi demande à ce qu'un plan de vigilance d'une entreprise identifie des risques liés à ses activités de groupe, évalue les situations sur place, que l'entreprise mette en œuvre des actions adaptées pour réduire les risques identifiés, qu'elle mette en place un mécanisme d'alerte et de signalement s'il y a des risques nouveaux qui arrivent, et crée un dispositif de suivi des mesures.
Et quand vous parlez de risques, Laurence Yarabelli, on a 45 secondes devant nous, donc il va falloir être concis. Vous parlez de risques sur l'environnement, des risques concernant le respect des droits de l'homme?
Oui, tout à fait. En fait, on trouve que le plan de vigilance de Total ne met pas en avant les risques liés à l'exploitation dans le parc. Il y a également des violations de droits de l'homme et des cas de suspicion de violations de droits de l'homme liés aux activités, notamment par exemple des indemnisations de terres et de compensations de terres qui touchent 50 000 personnes qui sont insuffisantes. Et ce sont tout ce genre d'activités qui sont liées à l'exploitation pétrolière qu'on dénonce aujourd'hui dans la mise en demeure. L'entreprise a 3 mois aujourd'hui pour se respecter, pour se conformer à nos demandes. Et si elle ne le fait pas, on pourra aller en justice et demander et saisir un juge devant les juridictions civiles pour que Total mette en place des mesures plus utiles.
En tout cas, Total a été contacté la semaine dernière par RFI et le groupe pétrolier a assuré qu'il commentera la mise en demeure après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier. Merci beaucoup Laurence Yarabelli d'avoir été avec nous.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.